un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un épisode qui se passe à Amiens et devait figurer au départ dans notre série spéciale Élections présidentielles, intitulée Les gens du coin, des histoires sans grand lien, sans thème particulier, qui se passent juste dans le même coin. Et puis, finalement, on dirait qu'à Amiens, en Picardie, ville d'art et d'histoire, célèbre pour sa cathédrale gothique, sa ficelle picarde et ses super stagiaires, un petit vent de solidarité, empreint de révolte, semble bien souffler. De telle sorte que cet épisode fait plutôt partie de notre ensemble des citoyens qui changent le monde, à leur échelle, à leur façon, mais avec une grande et belle détermination. Et peut-être même qu'au fond, me direz-vous, ça n'a pas tellement d'importance, tant que l'on fait connaissance avec deux personnes simplement exceptionnelles. Voici donc Christophe et Isabelle, animés par l'urgence humanitaire et climatique, qui ont décidé d'agir, de faire quelque chose, sans se vanter ni la ramener, ils racontent à Sophie Simoneau.
Je m'appelle Christophe Antuine, je suis artisan menuisier. J'habite dans un tout petit village qui se situe à l'ouest d'Amiens, une quinzaine de kilomètres à peu près. C'est la campagne profonde, on va dire même. En 58 ans, j'ai très peu déménagé, j'ai fait ferrière ce 6 kilomètres, et ensuite dans ce, j'ai déménagé d'une rue à l'autre, 150 mètres. Mon père était artisan menuisier à Ferrières, et il a arrêté en 97, quand moi j'ai pris sa succession d'ailleurs. Donc je suis assez ancré ancré sur le territoire, quoi. Chez mes parents, c'était surtout bon, le respect, hein. Fallait pas faire d'écart, fallait pas se faire remarquer. Fallait être bon avec les gens, et c'était encore à l'époque où il fallait beaucoup de main-d'œuvre pour faire les pommes de terre, ramasser les betteraves fourragères, la moisson, tout ça. Il fallait ramasser la paille, c'était les petits ballots, fallait rentrer dans les granges. Et ben, à l'époque, c'était normal. Tous les jeunes allaient, on allait aider, mais bénévolement. C'était juste, c'était normal de rendre service, en fait. On donnait, on recevait, et puis ça se passait comme ça. Ça faisait partie de la vie à la campagne. Et donc, ça fait maintenant, oui, une trentaine d'années que je suis artisan dans le coin, à Ferrières. En fait, je suis l'artisan du coin qui dépanne pour tout, en fait. Au départ, on est menuisier, mais on a tout fait pour nos clients, en fait. Donc, on a des familles que mon père travaille pour eux. Moi, je travaille toujours pour eux. Donc, mais on est, voilà, moi, c'est ce que je dis. Je suis pas artisan, je suis pas que menuisier, je suis artisan à l'ancienne. Un artisan à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on dépannait dans le village, dès qu'on pouvait dépanner, on dépannait. Il n'y a pas de problème avec des solutions. La première fois qu'on a entendu parler de la guerre en Ukraine, c'était aux informations, enfin, c'était même un peu avant la guerre, puisque les journalistes posaient la question, est-ce qu'ils vont envahir, est-ce qu'ils vont pas envahir. Donc, ben, ouais, comme ça, à côté de chez nous, on s'y intéressait, quoi. C'est l'Europe, c'est quand même pas... Ben, c'est vrai que la guerre, quand c'est loin, on s'en rend pas compte, hein, mais quand c'est à côté, on se dit, mince, quand même... On s'y intéressait parce que c'était inquiétant, quoi. Parce que nous, on a connu des anciens qui nous l'ont raconté, la guerre, on n'a pas envie qu'elle vienne chez nous. Puis quand c'est comme ça, on pense surtout à ce qu'on aime, à sa famille, à ses enfants. On n'a pas envie qu'ils vivent ça, quoi. Donc on se sentait un petit peu solidaire de l'Ukraine, quoi, du coup. On s'est senti un peu solidaire en disant que, ben oui, il fallait peut-être les aider, quoi. Et on suivait tous les jours un peu l'évolution. C'était tout au début, hein. Les gens commençaient à organiser des collectes, les associations, tout ça. Tout s'accumulait sur place, quoi. Mais on ne voyait jamais de transporteur partir. Donc on avait regardé un petit peu sur Amiens, on avait regardé un peu les informations régionales aussi, et on avait vu que le lycée de Lambre, en fait, faisait des grosses collectes. Donc c'est là qu'on s'est dit tout de suite, ça s'est décidé en 5 minutes, quoi. On regardait les informations avec mon épouse et mon fils, et puis je lui dis non, mais c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être le conduire, hein. Alors mon épouse m'a pris au mot, ben, elle dit, ben t'as qu'à y aller, t'as qu'à aller faire un voyage. Ben, je lui dis, oui, c'est vrai, t'as raison, après tout, on va pas rester là, rien faire. Donc on a le fourgon, on a le camion. 20 mètres cubes, mine de rien, c'est déjà pas mal, ça fait un camion de 5 mètres de long, hein, de caisse, hein, donc on peut déjà en mettre, j'y vais. Et puis là, bon, il y a mon fils qui était là, il m'a dit, mais non, tu pars pas tout seul, je pars avec toi, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. L'après-midi, ma femme téléphonait au lycée de Lambre pour proposer nos services. Le lendemain, on nous rappelle en nous demandant dans combien de temps on peut partir. Mais je lui dis, moi, vous me laissez 24 heures le temps de démonter tout ce qu'il y a dans mon camion, et puis on y va. Donc voilà, c'est parti comme ça, sur un coup de tête, quoi. Sur un coup de tête, il m'a dit, il faut y aller. J'ai préparé le voyage, déjà je me suis débrouillé pour trouver une remorque fermée en plus, pour en emmener plus. Bon, au départ, moi j'avais dit je paierais avec la société, j'avais dit c'est pas grave, ça fera partie des frais, et puis ça faisait partie de l'action qu'on avait commencé, quoi. Et puis après, bon, c'est que les copains sont arrivés en me disant, ben non, moi je participe, je te donne un peu, machin. Et puis résultat, ben la famille, pas mal de la famille, a participé financièrement, on a réuni à peu près 1 400 € d'aide. Bon, après on a essayé de voir quelques entreprises, mais ça n'a pas marché. On a été voir un supermarché qui nous fasse le plein du camion, par exemple, rien que pour partir, quoi. On n'a jamais eu de réponse. J'ai appelé la SANEF, leur demandant un pass pour aller jusqu'à la frontière belge sur un week-end. Je leur demandais simplement la gratuité sur l'autoroute française. On ne l'a pas eu. On a eu une réponse un mois après. Si vous y retournez, on vous aidera. Donc je leur ai dit, ben, maintenant c'est votre tour d'y aller, c'est pas le mien. Ben oui, il ne faut pas soudre la figure du monde non plus. Non, on n'a pas, là-dessus, on n'a pas été aidé, hein. Mais c'était pas le problème. Les finances, je les avais, donc c'était pas un souci. Donc, on a décidé de partir le vendredi. J'avais dit, il faut partir vers 9 h parce qu'on savait qu'on avait 24 heures de route. Donc, on est arrivé dans les entrepôts parce que le lycée de Lambre, en fait, c'est un lycée qui forme les routiers, tout ça. Donc ils avaient des élèves en logistique, en plus c'était un exercice d'école, donc on a pris principalement nous tout ce qui est des denrées périssables et puis tout ce qui était première nécessité, savon, produits d'hygiène, tout ça, des couches bébés, après on a fini par charger des habits parce que c'était moins lourd, ça permettait d'en mettre encore plus dans le camion, quoi. Ils ont chargé le camion jusqu'au plafond. Bon, après je leur avais dit qu'on pouvait forcer un petit peu, mais là on avait vraiment beaucoup forcé. On est parti d'Amiens, en fait, la première bordure qu'on a passée, j'ai dit on n'arrivera jamais. C'est pas possible, on va casser quelque chose. Le camion était en surcharge phénoménale. Normalement, on a à peu près le droit à 1 tonne dans ce camion-là. On était à 5 tonnes. On l'a su, en fait, parce qu'on a crevé sur l'autoroute en Belgique. Et on a plié 2 criques parce que le camion était trop lourd. Et donc là, on a trouvé un camionneur belge qui nous a prêté un cri de 5 tonnes qu'il n'a pas levé. Et après, on a trouvé un cri de 30 tonnes, et là, on a pu changer la roue du camion. Donc là, après, on est reparti, on n'est plus de roue de secours, par contre. Là, c'était un peu plus embêtant. Donc, c'était un périple. Quand on est arrivé en Allemagne, mon fils a pris le volant à ce moment-là, et il me dit, t'as vu le GPS, ce qui marque? Prochaine sortie, 1038 km. Alors là, c'est de dire, oui, quand même. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, c'est quand même pas tout près, quoi. Et puis non, ça s'est passé tout pian-pian, parce que comme chargé comme on était, on pouvait pas aller très vite, quoi. Il faisait beau, il y avait un beau soleil, donc c'était un peu des vacances aussi. Moi, j'étais jamais allé à l'Est. Hein. J'avais été en Allemagne au marché de Noël, c'est tout ce que j'avais fait. Donc forcément, après Cologne, je connaissais rien. Donc oui, non, c'était une découverte des pays européens en même temps. Les maisons qui diffèrent un peu, tout ça, donc, ouais, c'est des paysans. C'est surtout au niveau des cultures que ça change, parce qu'on ne cultive pas de la même façon chez nous. Chez nous, c'est des champs immenses quand on traverse la France. Traverser la Pologne, c'est que des petits champs entrecoupés de bois. Tout ça. On avait l'impression de retourner un petit peu dans le temps, c'était bien. Et ce qui nous a marqué aussi, c'est qu'on n'était pas les seuls. Parce que sur l'autoroute, on a eu toutes les nationalités comme nourries des petits fourgons qui roulaient pour aller en Ukraine. Il y avait des autocollants, Croix-Rouge, aide humanitaire. Donc on a eu des Italiens, des Belges, des Anglais, des Allemands, des Polonais. Et donc c'était sympa parce qu'il y avait des appels de fer, un coucou de la main, n'importe quoi. Mais c'était vrai que je me rappelle, c'était des Italiens. On repassait devant, ils nous repassaient derrière parce qu'on devait rouler à peu près à la même vitesse. Donc et ouais, c'est vrai qu'à la fin, on klaxonnait un petit coup de klaxon quand on se voyait, quoi, parce que c'était sympa, quoi. Donc du coup, on a fait la route avec plein d'autres gars qu'on connaissait pas, quoi. Donc on était dans la même galère qu'eux, en fait. Il y avait un élan de solidarité, c'est l'émotion, c'est voir qu'on est tous, d'avoir des gens qui sont encore solidaires, d'aller aider les autres, quoi. C'est ça, le sens de l'émotion. C'est beau à voir, faut le dire, c'est beau à voir. Alors, nous, on se dirigeait, on allait à Medyka. Medyka, c'était la frontière ukrainienne-polonaise, en fait, où les réfugiés arrivent à pied. C'est une petite ville de 4-5 000 habitants. Hein. C'est tout petit Medyka, en fait. Hein. Donc, ils étaient débordés, les pauvres gens, d'ailleurs. Hein. Quand on voyait le flux d'Ukrainiens qui rentraient, c'était pas possible qu'ils arrivent à gérer. Le chemin par lequel ils arrivaient à pied, les gens, hein. C'était la plaine, vous voyez pas le bout, hein. Beaucoup des femmes avec des enfants, qui étaient là à pied par un temps froid, mais qu'on voyait pas le bout. Ça, c'était franchement, oui, c'était prenant. J'avais une fille là, qui faisait 3-4 mètres de large en plus, hein, je veux dire, et puis ils sont collés l'un à l'autre, hein, c'est à la queue leu-leu. Hein. Mais c'est une tristesse à voir. Hein. C'est prenant, ça, oui. Mais il y avait un centre, on a livré dans un centre de première urgence, en fait. C'est un gymnase avec des sous-sols en dessous. Donc le sous-sol servait pour, ils avaient mis 200 ou 300 lits en dessous pour accueillir les familles qui arrivaient, quoi. Et au-dessus, dans le gymnase même, c'était la logistique, en fait. Ils dispatchaient tous les colis, mais alors c'était des montagnes de carton, dehors, en fait. C'était impressionnant, hein. C'était le bordel, oui. Parce que nous avait dit, vous arriverez là-bas, vous verrez, il y a les drapeaux de tous les pays, tout ça, machin, vous irez décharger là-bas, il n'y a rien de tout ça. Hein. Mais c'était un peu organisé quand même, hein. Ils faisaient au maximum. Franchement, moi je leur tire le chapeau aux Polonais, parce que c'était pas facile, hein, d'accueillir tant de monde à si peu de monde. Je pense même qu'on aurait peut-être pu, l'Europe aurait peut-être pu aider un peu plus, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on est resté sur place 2 heures. Déjà, on n'était pas là-bas pour faire du lèche-vitrine. Et puis, on ne pouvait pas rester longtemps, en fait, parce qu'il y avait la queue dans les fourgons, en fait. On arrivait, on déchargeait au plus vite possible pour repartir. Et eux, ils nous poussaient, on se dépêche. Et on est reparti. On est reparti dans l'autre sens. On a remis le GPS, 1500 km. Voilà, c'est ça. On est parti à 9h, 9h30 d'Amiens, on est revenu ici à 9h30, 48 heures après. Le périple était un peu long quand même. Et après, on reprend la routine, après. On reprend la routine, et puis... Bon, on peut raconter l'histoire une plusieurs de fois, parce qu'on nous pose des questions. Mais non, on était content de l'avoir fait, surtout. Et de l'avoir fait à deux, en plus. Avec le fils. Ah, oui. On a quelque chose en commun, maintenant. En plus. On sait pas quoi, mais il y a quelque chose. Il était comme moi, il a vu que c'était quand même là, à côté, et puis... ce qui l'a touché beaucoup, c'était la pauvre dame avec sa valise sur l'autoroute. Ça, c'était fou, ça. On a vu passer une dame avec une petite valise rose, juste à la frontière ukrainienne, en fait, qui arrive en Pologne, et on savait pas où elle allait, cette pauvre dame. Un grand cordon bitumeux, et puis elle marchait dessus, quoi. C'est une bizarre comme image, quoi. Et ça l'avait marqué, ouais. C'est vrai, ça l'avait... Ça restera là. C'était une expérience à faire, et peut-être à refaire. C'est une action, même si c'est tout petit, ça a servi à quelque chose. Je trouve que c'est plus concret que quand je fais un téléthon, je veux dire. Si je fais un don à une association, je suis pas sûr qu'il arrive au bout. Hein. Mais là, il n'y a pas eu de perte, hein, c'est le cas de le dire. Là, on sait vraiment où ça a été. On a été jusqu'au bout du système. On n'a pas amené une aide financière, on a amené une aide de l'utile, on a amené. On a amené de l'utile, puis c'est tout. Stéphanie, maman, вона на мене стала, може більше і відсоломана. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так. Стефанія, мамо, Стефанія.
m'appelle Isabelle, j'ai 42 ans, j'enseigne à l'université en Institut universitaire de technologie. Amiens, j'y ai fait mes études, donc depuis 1998 j'y suis, c'est ma ville d'origine et de vie. Je suis partie un petit peu pour mon premier poste dans le secondaire, 3 ans seulement, à Saint-Quentin, c'est pas loin d'ici, c'était toujours en Picardie. Et quand on est revenu à Amiens, quand je dis on, c'est avec mon compagnon, je cherchais une chorale. Et là, je suis tombée sur des gens en rouge et noir, le point levé. La chorale révolutionnaire. Je savais pas que ça existait, un truc comme ça, en fait. Que j'y rejointe tout de suite. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait découvrir Amiens d'une autre façon, rencontrer plein de gens auxquels je suis attachée maintenant. Le féminisme, l'anticapitalisme, le pacifisme. J'étais ravie de tout ça. Et en fait, c'est par ce biais-là que j'ai découvert qu'on pouvait s'engager là-dessus autrement qu'en prenant sa carte dans un parti ou son adhésion à un syndicat. Moi, je considère que c'est la chorale qui m'a fait devenir militante alors que j'étais juste quelqu'un de vaguement à gauche. Alors maintenant, dans la famille, je passe pour la grosse révolutionnaire. Donc pour eux, c'est assez exotique, quoi. Des moments, c'est « Allez, la révolutionnaire, qu'est-ce que tu nous chantais, l'international ?» Non, mais c'est pas du folklore, hein, donc non, je ne ferai pas cela. Mais en tout cas, ça détonne un petit peu dans la famille, quoi. Donc, quand il y a eu Extinction Rébellion qui est arrivé à Amiens, j'y suis allée à la première réunion. Déjà, de toute façon, pour le sujet, quand même, c'est quand même ça l'essentiel. Moi, c'est les questions environnementales. Et puis, le mode d'action plus action directe, ça m'allait bien. C'était le bon équilibre. On fait de la désobéissance parce qu'il faut changer de méthode. Donc, on va essayer ça. Et non violente, pour moi, c'était fondamental. Enfin, s'il y avait espoir que ça puisse marcher de reproduire un mouvement de désobéissance civile de masse, ouais, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc j'ai rejoint Extinction Rébellion comme membre actif. C'était à peu près 1 an avant le confinement. Pendant le confinement, on ne voulait pas s'arrêter de faire des actions. Donc, on a essayé d'imaginer des actions confinement compatibles. Donc, du coup, l'idée, c'était de mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça qu'on l'a formulé, les Amazon Locker d'Amiens. C'est les trucs, là, les espèces de gros casiers orange où on peut récupérer son colis Amazon. Donc, dans Amiens, il y en a 10, 12. Enfin, on avait fait la carte, repérer les Amazon Locker. Et l'idée, hein, qui était la mienne, c'était que on pouvait faire ça en binôme. Donc, pas trop de monde d'un coup. En même temps, tout le monde pouvait faire la même action en binôme. Donc, c'était quand même une action de masse. Voilà, je trouvais que c'était assez bien en temps de Covid, une action qu'on pouvait faire. C'était la veille du Black Friday. C'était donc un jeudi soir. Je me souviens que je suis partie de la maison en disant à mon compagnon, parce que lui, il s'inquiétait un petit peu plus que moi. T'inquiète pas, je suis revenue pour telle heure. Si vraiment à telle heure, je suis pas revenue, c'est que ça pue, là, tu pourras commencer à t'inquiéter. Puis j'avais pris bien de la marge pour qu'il s'inquiète pas, qu'il sache qu'on était tranquille. Donc, je pars de chez moi avec mon masque, mes lunettes de soleil. Il était 6h30 du soir au mois de novembre. Hein. Parce que je savais que de toute façon, c'était filmé. Il y a des caméras partout. Donc, l'idée, c'était de faire vite. J'arrive à l'heure au point de rendez-vous. Les 3 trucs qu'il y avait à mettre, c'était le marqueur sur l'écran. Ça marchait rudement bien. La glu sur le truc de carte bleue. Et puis... 1 ou 2 autocollants qui expliquent Black Friday, Stop Amazon avec des petits arguments. Donc voilà, on fait, ça prend, je sais pas, 30 secondes, enfin c'était hyper rapide. On s'en va pour pas éveiller les soupçons en marchant, tranquillou, normal. Et là, la main sur mon épaule, police nationale. et là, j'ai eu une sorte de vertige en me dire je rêve. Oh merde, je sais pas d'où ils sortaient. Je crois qu'ils étaient 4. Moi j'ai coopéré, j'avais ma carte d'identité. On monte dans la voiture. lecture. Moi, j'étais hyper contrariée. Enfin, j'étais dans une sorte d'état second, mais en même temps, mais aussi en mode de survie, quoi. Ok, là, il t'arrive une grosse merde, donc faut que tu gères bien. Donc, faut pas péter les plombs. Et puis, eux, ils étaient en mode un peu, enfin, je sais pas comment ils m'ont cernée, mais je pense que là, j'ai de la chance d'être une jeune femme blanche, qui s'exprime en bon français, parce qu'ils étaient quand même assez polis. Pour finir, arriver au commissariat, il m'a signifié que j'étais mise en garde à vue. Et bah, c'était parti pour la nuit parce qu'il se passe rien. Hein. Il se passe rien à cette heure-ci. Je me suis retrouvée avec une nana qui était arrivée en pyjama, pieds nus, en train d'insulter tout le monde et il m'avait mis les menottes. Elle était déjà en cellule et je me rends compte qu'ils me mettent avec elle et j'étais là, je suis avec la nana qui avait pas l'air bien. Et après, il y a encore une troisième nana qui est arrivée. Elle avait été arrêtée pour trafic de stup exercé par son conjoint. La plateforme, c'était un peu chez eux. Elle le savait pas. Elle était clairement dans la merde, quoi. L'autre aussi, elle était pas bien non plus. Elle était en manque de drogue. Elle s'était fait chasser de chez sa mère où elle avait plus ou moins tout pété. En fait, ça m'a vachement aidée d'être avec ces égoïstes, peut-être de dire ça, mais d'être avec d'autres personnes, de discuter avec elles et de complètement relativiser la situation. Donc moi, voilà, j'ai un peu pleuré en pensant que peut-être j'étais conne d'avoir fait un truc comme ça, mais sinon, c'était juste un mauvais moment à passer. Sur le coup, la seule chose qui me contrariait vraiment, c'est que je suis fonctionnaire. Et c'était la question, bon, est-ce que c'est bien sûr que c'est pas un truc qui va pouvoir menacer mon boulot ? Donc j'étais quand même pas du tout en mode héroïque, je ne regrette pas ce que j'ai fait, j'étais prête à être ici et j'y suis, non, j'étais un peu minable, quoi. J'ai fini, après des heures où il se passait rien, par être convoquée là-haut, puisque les cellules, c'est en bas, pour un mini-interrogatoire. Et donc, après une bonne vingtaine d'heures de garde à vue, je suis sortie avec simplement convocation pour rappel à la loi devant le procureur, ce qui a eu lieu quelques mois plus tard. Et c'en est resté là. Il n'y a pas eu plus de suite. L'entourage familial, ils ne savent pas toujours tout ce qui se passe. Oh, j'ai pas dit à la famille. Elle connaît les thèmes sur lesquels je milite. Elle a beaucoup de sympathie pour ça. Mais je leur raconte pas toutes les coulisses. Mes collègues ne connaissent pas trop mes activités non plus. Là, pour le coup, ils auraient pas de sympathie pour ça. Parce que déjà, ils ont confessé que le jour où j'ai dit que moi, j'étais contente de payer mes impôts vu que ça finançait mon salaire de fonctionnaire... Alors là, apparemment, j'ai fait mon coming out de gauche extrême. Donc, j'essaye pas. Bah, en tout cas, pour être franche, c'est quand même forcément une expérience que je garde. Et par la suite, j'ai pu dire, moi, j'ai donné, chacun son tour. Mais c'est pas pour autant que ça a fait changer ma réflexion foncièrement sur tout ça. Bah, déjà, moi, je trouve quand même rien d'extraordinaire dans un peu de dégradation matérielle. Enfin, je qualifie pas ça de violent et je mettrai toujours en proportion les enjeux de ce qu'on essaie d'arrêter. Alors, on est dans la décennie où l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, ça va faire que la planète, elle est encore vivable ou pas pour l'espèce humaine à long terme. C'est des questions de vie ou de mort. Enfin, ça fait grandiloquent, mais en tout cas, c'est vraiment... Moi, je prends les choses au sérieux, c'est comme ça que je les vois. On milite en ce moment sur la création d'une zone où ils veulent bétonner une des dernières entrées vertes d'Amiens. Moi, je serais partante, je ne sais pas comment on arrête un bulldozer, mais en tout cas, pour y aller, essayer de l'arrêter. Alors, y a les journalistes qui ont fantasmé quand on avait dit ça au début, qu'on était prêts à faire une ZAD. Et moi, j'avais dit quand même à tout le monde, peut-être que ça fait des échos, mais concrètement, on a moyen envie d'aller camper dans la boue, dans l'humidité, dans le froid. Enfin, ça serait pas un truc sympa. Bah oui, j'ai quand même un boulot hein, à côté. Donc, bah, j'en sais rien, après il faut inventer. J'ai lu dans un roman qui s'appelle Le gang de la clé à molette qu'il suffit de mettre du sucre dans le réservoir pour plus qu'il démarre. Ça, voilà, facile, efficace. Ça, je pourrais faire. Enfin, moi, ce genre d'action concrètement, directement utile pour le coup, ben oui, je serais toujours là. Il faut bien.
Honey's got a new feeling. Honey peeled herself off the ceiling. Because got is revealing how to serve your body, how to serve your mind, searching your capricious soul. On the weekend, and you pretend you're a seeker. When they all come loving and looking, you are riding a tell-all sugar. You are leaving nothing out.
C'était Amiens, Belle et Rebelle, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Sylvain Richard. Merci à Christophe, à Isabelle ainsi qu'à Mélanie des Mutilés. Si vous voulez continuer à aider les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui en ont encore et toujours besoin, écrivez-nous et on vous mettra en relation avec des associations efficaces. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Flavie Champion, notre stagiaire.
L'équipe de France est championne du monde.
Le 12 juillet 1998, la France remporte pour la première fois la Coupe du monde de football. Une brillante victoire 3-0 face au Brésil, champion du monde en titre. S'en suivra une incroyable liesse populaire au sein du pays, la nuit et les jours suivants.
Ils l'ont vécu, la victoire des Bleus en 1998.
Un podcast de Noureddine Zidane et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.